Je n'aurai jamais d'enfant. Mes amis de la Gen Z sont unanimes. Pas d'enfant dans un monde pareil.
Salut, je suis la fille avec la liste et c'est le signe qu'il faut descendre de cette barrière et prendre sa contraception, car l'herbe n'est pas plus verte de son côté de la barrière. Bon, voici mon avis. Alors, ne me faites pas de reproches. Mais dans l'ensemble, la maternité est profondément insatisfaisante. Tous mes amis qui ont des enfants
sont en enfer. Je ne connais personne qui soit heureux et qui ait des enfants. Gen Z n'essaie pas d'avoir des enfants, mais le gouvernement tremble de peur parce que nous n'en voulons pas. Le gouvernement américain panique parce que le taux de natalité est en baisse, ce qui signifie que le PIB pourrait chuter, ce qui signifie que les milliardaires pourraient gagner moins d'argent. Le taux de natalité
est très bas. Si cela ne change pas, la civilisation disparaîtra. Les trois quarts des pays n'auront pas de taux de fécondité suffisamment élevé pour maintenir la croissance de leur population au fil du temps. Et maintenant, vous n'avez plus d'enfants. Il n'y a plus du tout de génération de remplacement.
La Maison Blanche a des idées sur la manière de changer cela. Une proposition comprend une prime de naissance de $5,000. Voyez-vous, mais le truc, c'est que la maternité est une arnaque. Les taux de natalité diminuent lentement depuis des décennies maintenant, mais la génération Z scelle l'affaire puisque près de 30% d'entre eux déclarent ne pas avoir d'enfants et ne pas en vouloir. Et honnêtement, qui peut les blâmer? Parce que la maternité moderne ne ressemble à rien de plus qu'à un travail stressant et sous-payé, sans aucun avantage autre que la réalisation d'une étape que la société dit que nous devons accomplir. Mais maintenant, les politiciens du monde entier paniquent, car pas d'enfants signifie pas de futurs travailleurs et le chaos économique. Donc, dans une tentative désespérée de relancer un nouveau baby-boom, on nous propose des idées géniales comme une prime de naissance de $5,000 et une médaille nationale de la maternité décernée aux femmes qui ont 6 enfants ou plus. Mais un cadeau de relance financé par le gouvernement suffirait-il vraiment à remettre Gen Z dans le train des bébés? Et si avoir des enfants est censé être essentiel à la survie d'une nation, alors pourquoi les femmes ont-elles été continuellement laissées pour compte et oubliées jusqu'à présent? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi la génération Z abandonne-t-elle la parentalité et qui est à blâmer pour l'effondrement imminent de notre population? On a l'impression que ces dernières années, les gens ont réalisé qu'il y avait un problème avec le taux de reproduction et qu'ils essayaient désespérément d'y remédier. Contrairement au discours selon lequel beaucoup d'entre nous ont grandi et selon lequel le monde était sur la voie de la surpopulation et de l'épuisement des ressources, les choses ont complètement changé. Soudain, la surpopulation n'est plus la crise, mais la sous-population. J'ai d'ailleurs fait l'une de mes premières tentatives de rédaction d'un essai vidéo en 2020 sur le problème de la surpopulation. Et c'est là que j'ai appris que nous n'avions pas vraiment de problème de surpopulation. N'hésitez pas à revenir en arrière et à le regarder. C'est amusant de voir à quel point mes essais ont changé. Mais les pays ont commencé à changer leur façon de penser, passant des préoccupations liées à la surpopulation à l'inquiétude liée au faible taux de natalité, principalement dans les années 2010, la diminution de la population âgée du Japon étant l'un des premiers signes. Depuis lors, de nombreux pays se sont efforcés de relancer leur croissance démographique, notamment la Chine qui a aboli sa politique de l'enfant unique en 2016, qui était initialement en place depuis 35 ans pour minimiser les préoccupations liées à la surpopulation. Mais même lorsque la loi a été abolie, ils se sont retrouvés dans cette situation parce que les femmes n'avaient toujours pas d'enfants. Parmi les quelques 11 millions de couples qui étaient éligibles pour avoir un deuxième enfant en vertu de la nouvelle règle, seuls 1,69 million en avaient fait la demande en août 2015, soit 15,4% de ces couples. Et depuis lors, la baisse des taux de natalité a attiré l'attention du monde entier, en particulier dans les années 2020, car les tendances sont devenues trop difficiles à ignorer. Cette carte devrait servir de signal d'alarme. Les habitants des pays orange ne se remplacent pas eux-mêmes. Leur taux de natalité est inférieur au remplacement. Vous l'avez probablement déjà vu sur la carte, mais il n'y a qu'une seule région du monde qui connaîtra une croissance démographique nette. 6 pays seront responsables de plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d'ici la fin du siècle. 5 d'entre eux se trouvent en Afrique. Il est difficile d'exagérer à quel point cela va brouiller le paysage géopolitique d'ici la fin du siècle. Et la raison pour laquelle cela pose problème, selon eux, c'est que nous devons maintenir les niveaux de remplacement de la population pour soutenir les économies, car nous devons remplacer les emplois. Nous devons payer pour les retraités. Il nous faut tout ce dont les économistes disent qu'on a besoin. Alors que se passe-t-il avec les femmes et pourquoi ne veulent-elles pas d'enfants? Pour beaucoup d'entre elles, la vie idéale moderne n'inclut tout simplement pas d'enfants. Et ce changement d'état d'esprit se construit depuis longtemps. Depuis la révolution des femmes dans les années 70, lorsque les femmes se sont battues pour leur autonomie au-delà de la maternité, cela a ouvert la porte à une vie sans enfants. Comme nous l'avons dit ici, elles veulent couper les cordons du tablier qui confinent les mères à la servitude domestique non rémunérée à la maison. Et depuis lors, les taux de natalité ont commencé à décliner lentement. En 2022, pour la 7e année consécutive, le taux de natalité des femmes américaines au début de la trentaine était plus élevé que celui des femmes à la fin de la vingtaine. Plus remarquable encore, le nombre de bébés nés de femmes de 40 ans et plus, bien qu'encore faible dans l'ensemble, a considérablement augmenté de 2021 à 2022, en hausse de 6% chez les femmes âgées de 40 à 44 ans et de 12% chez celles de plus de 45 ans. Et en 2023, les États-Unis ont enregistré leur taux de natalité le plus bas depuis 40 ans. Et il y a de multiples raisons à cela. Non pas que les femmes aient besoin de donner une raison pour laquelle elles ne veulent pas d'enfants, mais il est toujours utile de savoir pourquoi. De nombreuses femmes disent que c'est parce qu'elles veulent donner la priorité à leur carrière. Elles accordent de l'importance à la liberté personnelle. Elles craignent de mettre des enfants au monde dans un monde instable où se sentent limitées financièrement. Mais récemment, une enquête menée auprès de femmes a révélé que la principale raison pour laquelle elles ne voulaient pas d'enfants, à la manière des hommes, était tout simplement qu'elles n'en voulaient pas. Et si je ne voulais pas vivre comme toi ? Oh, ne sois pas ridicule, Andrea, tout le monde veut ça. Une étude du Pew Research Center de juillet 2024 auprès d'adultes américains a montré que 57% de ceux déclarant peu probable d'avoir des enfants ne le souhaitaient tout simplement pas. Andrea Williams, une femme d'une vingtaine d'années, a raconté son expérience de la décision de ne pas avoir d'enfants et a déclaré qu'au début, il était inconcevable de ne pas en avoir. Mais plus j'y réfléchissais, plus je ne trouvais pas de raison pour laquelle j'en voulais, si ce n'est que je pensais que c'était ce que j'étais censé faire. Avant d'aborder certaines des solutions à ce problème, je tiens également à préciser que je ne cautionne pas le fait de faire pression sur les femmes pour qu'elles ressentent le besoin d'avoir des enfants. Je suis tout à fait favorable à la mise en place d'un système qui aide les femmes qui veulent des enfants à se sentir capables d'en avoir. Pour mieux comprendre le choix de certaines femmes de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir seulement un. Les recherches ont constamment montré que la maternité n'est tout simplement pas très attrayante et l'est certainement moins que la paternité. J'ai eu 30 ans le mois dernier. Aïe! Mais je me sens vraiment bien à ce sujet. J'ai hâte d'entamer une nouvelle décennie. Et l'année dernière, j'ai également commencé une routine de soins de la peau pour aider à maintenir la santé de ma peau et à ressentir mon âge. Et mes produits préférés sont de loin ceux de Typology, qui est le sponsor du jour. J'utilise donc Typology depuis que j'ai commencé mon parcours de soins de la peau. Et la raison pour laquelle je les aime, c'est parce qu'ils utilisent des ingrédients d'origine naturelle et des emballages en aluminium et en verre. Je fais très attention à l'emballage de mes soins de la peau, car le plastique des bouteilles peut s'infiltrer dans vos produits et vous l'appliquer ensuite sur votre visage. Nous n'avons pas besoin de plus de perturbateurs endocriniens dans notre vie. J'apprécie vraiment les emballages en verre et en plastique. Quant à leurs ingrédients, tous leurs produits sont fabriqués en France et doivent donc respecter les réglementations européennes, qui sont bien plus strictes que celles des États-Unis. Vous savez donc que vous obtenez les meilleurs ingrédients. L'un des premiers produits que j'ai utilisé était leur crème hydratante à 9 ingrédients, qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne contient que 9 ingrédients d'origine naturelle et est présentée dans un tube en métal. Depuis, j'ai commencé à utiliser d'autres produits de leur gamme teintée. Je les adore parce que ce sont des produits hybrides, ce qui signifie qu'ils vous offrent les bienfaits à long terme des soins de la peau avec des ingrédients actifs, tout en étant très esthétique. Le sérum teinté est composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et contient de la vitamine C, de la squame et de l'aloe vera. Leur anti-cerne est composé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle et contient de la caféine et du N-Y-cinamide, ce qui aide à réduire l'apparence des rougeurs, des poches et des cernes. Et j'adore leurs huiles pour les lèvres. Je porte actuellement celle-ci en cerise noire. Elles contiennent du squalane, de l'huile de jojoba et de la vitamine E. J'adore ces huiles à lèvres, si légères. Elles ne collent pas et donnent juste une légère couleur à vos lèvres. Rien de trop audacieux. Donc, si cela vous intéresse, Typology a une offre exclusive pour vous. Si vous cliquez sur le lien dans la description, vous pouvez recevoir une huile sèche scintillante gratuite avec de la vitamine C et 5 huiles végétales biologiques pour tout achat de $40. Et cette offre n'est valable que pendant une semaine. Donc, si cela vous intéresse, sautez dessus. Tout se résume toujours au patriarcat, n'est-ce pas ? Car il s'avère que les décennies et les décennies pendant lesquelles les femmes ont été laissées à la maison pour porter l'intégralité du fardeau mental et émotionnel de la parentalité n'ont pas bien joué en faveur des taux de natalité. Cette version de la maternité, qualifiée de maternité patriarcale, est celle d'un système qui valorise une mère opprimée. Une idéologie dans laquelle l'on s'accorde inconsciemment à dire que les mères sont intrinsèquement meilleures en matière d'éducation des enfants parce que cela leur vient naturellement, et que devenir mère est la partie la plus importante de la vie d'une femme, et que l'intégralité de cette responsabilité est censée reposer sur les épaules d'une seule personne, la mère. Et à cause de cette idéologie, qui est présente dans le monde entier, remarquez bien, les femmes sont statistiquement plus accablées par la maternité que les hommes, même à l'époque moderne. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal en cette période de la maternité, qui est celle des premières années. J'ai un enfant de 4 ans, un autre de presque 2 ans et un nouveau-né. C'est à quel point on a besoin de moi tout le temps. C'est tellement frustrant. C'est tellement débilitant d'avoir l'impression de ne pas être soi-même et de ne pas compter. Nos besoins n'ont pas d'importance. Nous savons tous qu'on ne peut pas verser d'une tasse vide. Mais si vous êtes une mère, en particulier avec de jeunes enfants, vous n'êtes pas seulement tenu de verser à partir d'une tasse vide, il n'y a pas d'autre moyen. il n'y a aucune chance que votre tasse soit pleine. Même si vous essayez de la remplir, elle ne se referme même pas. Donc, vous n'êtes pas seulement tenu de verser à partir d'une tasse vide à tout le monde, à chacun de vos enfants, à votre mari, vous êtes également censé le faire avec le sourire en permanence. Les recherches ont constamment montré que la parentalité est plus éprouvante pour les mères. Alors que des études ont montré que les pères assument davantage le rôle parental auprès de leurs enfants qu'auparavant et peuvent ressentir du stress et de l'isolement, de nombreuses études ont montré les pressions temporelles aiguës qui pèsent sur les mères, en particulier en ce qui concerne la charge mentale. Par exemple, un rapport de Statistique Canada de 2022 a estimé que les femmes assument systématiquement une plus grande part des tâches ménagères non rémunérées, y compris la garde des enfants. D'autres études ont montré que les mères sont épuisées émotionnellement et épuisées.
J'écoutais justement un podcast sur la baisse du taux de natalité et il parlait des raisons pour lesquelles les gens choisissent de ne pas avoir d'enfants ou pourquoi ils en ont tout simplement moins. Et il y a eu deux ou trois choses qui sont ressorties et que nous connaissons tous très bien, n'est-ce pas? L'augmentation du coût de la garde d'enfants, le fait que les gens n'ont pas les moyens de se loger, le prix des produits alimentaires, tout ça. Et ils ont aussi parlé des médias sociaux et du fait que beaucoup de gens ne se marient plus ou ne sortent plus ensemble. Mais je pense qu'ils ont oublié un élément clé qui, je pense, est un facteur majeur pour beaucoup de femmes qui choisissent simplement de ne pas avoir d'enfants avec des hommes. Et c'est la répartition inégale du travail entre les hommes et les femmes, en particulier lorsqu'ils ont des enfants. Parce que voilà, beaucoup de femmes vous diront « J'avais un mari formidable, j'avais une belle carrière, j'avais une belle vie, et puis j'ai eu des enfants. Et puis les choses sont devenues tellement injustes. Je faisais toute la cuisine, le ménage et la lessive. Je m'occupais du chien, je m'occupais des enfants. Je faisais toutes les nuits, tous les petits boulots. Je préparais tous les repas de l'école. J'allais à tous les événements scolaires et mon mari allait simplement au travail. Il était considéré comme un bon père et j'étais considérée comme une mère correcte. Et chaque fois que j'en parlais, les gens me rejetaient. Et c'est pourquoi nous avons vu une telle poussée en faveur de la maternité authentique sur les médias sociaux au cours de la dernière décennie, car auparavant, les mères étaient obligées de souffrir en silence, à moins qu'elles ne veuillent qu'on leur dise qu'elles étaient de mauvaises mères parce qu'elles se plaignaient. Et même si je pense qu'il y a une mince ligne entre partager sincèrement à quel point la maternité est difficile et critiquer ses enfants et la maternité en général, je crois vraiment que ce mouvement est positif car il lève le voile sur cette image pittoresque de la maternité que nous avons vue dans les années 1990. La femme au foyer des années 1960. Cela est le fait de découvrir que la plupart de ces femmes au foyer se voyaient prescrire des sédatifs comme le Valium pour supporter la pression d'être une femme au foyer parfaite. Le fait est que les femmes ont été accablées par le rôle de parents par défaut pendant trop longtemps. Elles ne veulent donc plus faire ce sacrifice. Et nous en sommes arrivés au point où nous constatons que les hommes veulent en fait plus d'enfants que les femmes de nos jours. Un peu plus d'un cinquième des femmes sans enfants âgées de 18 à 34 ans récemment interrogées par le Pew Research Center ont déclaré qu'elles ne voulaient jamais être parents, contre 15% des hommes. À l'inverse, 57% des hommes ont déclaré qu'ils voudraient des enfants un jour, contre 45% des femmes. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose que nous observons dans le monde entier, car le rôle traditionnel de la mère est profondément ancré dans de nombreuses cultures. La Corée du Sud est l'un des exemples les plus flagrants, avec le taux de fécondité le plus bas au monde, à seulement 0,2 en 2023. C'est également un pays où le taux de fécondité est le plus bas au monde. Les femmes consacrent près de 3 heures de plus par jour aux tâches ménagères que les hommes. En comparaison, en Suède, on constate qu'il n'y a qu'une heure de différence entre les tâches ménagères des femmes et celles des hommes. Et leurs taux de fécondité sont nettement plus élevés. Qui aurait pensé que le fait que les hommes aident à la maison augmenterait les taux de fécondité? Mais l'autre facette de cette médaille patriarcale est que choisir sa carrière plutôt que de devenir mère au foyer n'allège pas nécessairement la charge. Cela en change juste la forme, car même si vous et votre mari travaillez tous les deux à temps plein, la mère assume toujours statistiquement une plus grande partie de la charge mentale liée à la parentalité. Si vous vous demandez comment concilier un travail de 9h à 17h avec la garderie, 8h30-15h30, la préparation des repas, le ménage, la lessive, une vie sociale, un projet parallèle, et garder votre santé mentale. Moi aussi. En plus de cela, les mères qui travaillent sont confrontées à ce qu'on appelle la pénalité de la maternité, un coup dur financier qui peut être considérable. En fait, les mères subissent une baisse de 60% de leurs revenus au cours de la décennie suivant la naissance de leur premier enfant par rapport aux hommes. Et certains affirment que la parentalité est l'un des principaux facteurs contribuant à l'écart de rémunération entre les sexes, car les femmes, même celles qui ne prévoient pas d'avoir d'enfants, sont souvent perçues par les employeurs comme des mères potentielles et leur rôle et trajectoire de carrière sont ajustés en conséquence. Quel a été le deux poids, deux mesures le plus difficile que vous ayez eu à surmonter ensemble? Les enfants. Toujours des enfants. Les investisseurs nous demandent tout le temps. Eh bien, que se passe-t-il lorsque vous allez avoir des enfants? Et je me souviens d'une fois où j'ai pleuré à cause de ça. J'ai appelé ma mère et elle m'a dit « Lève-toi ou arrête de jouer, ma sœur ». Je me suis dit « Putain ». Mais je pense que c'est comme si on partait du principe que, vous savez, dans votre carrière, si vous êtes une femme et qu'un investisseur investit de l'argent et que vous allez rester là pendant 10 ans, que vous allez avoir des enfants et qu'ensuite vous allez vous faire foutre. Et donc ce n'est pas étonnant que nous ayons des gens comme Chappelle Rann qui parlent dans des podcasts du fait qu'elle ne veut pas d'enfants parce qu'elle ne voit personne dans sa vie avec des enfants qui profitent vraiment de la vie. Non pas parce qu'il n'y a pas de mère qui aime la maternité, mais parce que pour beaucoup de femmes, la lutte est réelle. Et si la seule version de la maternité que Gen Z voit est soit une mère influenceuse épuisée qui se défoule sur la difficulté de la vie, soit une épouse traditionnelle qui agit comme si elle avait été lobéisée pour passer sa journée avec le sourire, comme le ferait la femme au foyer des années 60 qu'elle essaie de déguiser, alors il n'est pas étonnant que les femmes hésitent à avoir des enfants. Donc, en réponse aux femmes qui se rebellent contre la maternité, les femmes sont en colère. Le patriarcat et le choix de ne pas avoir d'enfants semblent amener les gouvernements à tenter de remédier à ce problème en proposant souvent les solutions les moins utiles. Récemment, comme je l'ai mentionné, le gouvernement américain a suggéré une prime de $5,000 pour chaque enfant qu'une femme a. Et c'était honnêtement assez choquant. Dans un pays où accoucher à l'hôpital sans complications, sans chirurgie, coûte au minimum $10,000 sans assurance, $5,000, c'est une gifle. L'administration actuelle a un problème avec la baisse du taux de natalité dans ce pays et offre $5,000 aux femmes. Remarquez qu'un paiement unique de $5,000 aux femmes pour qu'elles aient des enfants ou pour qu'elles aient des enfants comme incitation est diabolique. Et je contribuerai volontiers à la baisse du taux de natalité dans ce pays. Et en tant que Canadienne qui bénéficie d'un système de santé public, c'est toujours dingue quand on me rappelle que les femmes doivent payer pour accoucher. Comme le fait que vous deviez budgéter cela dans votre vie, savoir si vous pouvez vous permettre d'avoir un autre enfant en fonction de l'hôpital. Facture. Folie. Mais c'est l'autre chose qui m'exaspère, c'est qu'il a vraiment fallu prendre le risque d'un effondrement économique pour que de riches politiciens accordent aux mères de leur temps et un minimum de soutien. Comme je l'ai dit ici, l'idée d'une prime de naissance de $5,000 ressemblait à un geste symbolique face à une réalité qui s'effondre. Allez, fais-toi un bébé, allez. Tu veux un gâteau de riz? Il est tout à toi. Commence à les faire sortir, cela te fera changer d'avis. Et cela peut faire les deux. Mais une prime de naissance n'est pas un concept nouveau dans un monde où le taux de natalité est en baisse. C'est juste particulièrement choquant dans un pays où il n'y a pas de congé maternité, pas de système de santé publique, pas de garde d'enfants abordable et où le coût de la vie est en crise. Et sur ce, je ne vais pas aborder le coût des bébés dans cette vidéo, car bien qu'il joue un rôle important dans la décision d'avoir des enfants, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, expliquant que les milléniaux n'ont pas les moyens d'avoir des enfants, et je peux mettre le lien ci-dessous. Mais la plupart des pays développés sont aux prises avec de graves problèmes de santé. Les naissances diminuent. Des primes pour bébés sont versées depuis des années pour contrer cela. La Finlande a été la première à proposer cette idée en 1938, lorsque ce pays nordique a commencé à offrir aux mères à faible revenu le choix entre une prestation en espèces ou une boîte contenant des articles essentiels pour bébés, appelée « kit de maternité ». L'Australie verse aux nouveaux parents des versements d'environ $1,700 sur les 13 premières semaines, tandis que Singapour répartit sa prime pour bébés d'environ $8,000 sur 6 ans et demi. L'Allemagne verse des allocations familiales régulières d'environ $275 par mois en plus de son système universel de garde d'enfants. Le Japon, quant à lui, combine une somme forfaitaire de primes pour bébés avec des versements mensuels. L'autre problème avec la prime pour bébés aux États-Unis, outre le fait que $5,000 n'ont aucun impact à grande échelle sur la maternité, est la crainte qu'elle ne renforce les rôles traditionnels des sexes à une époque d'inégalité entre les sexes et de tensions sociales accrues. Cela s'explique par le fait qu'il ne s'attaque pas aux problèmes sociaux plus profonds qui pèsent sur les mères, mais les encourage à avoir des enfants et à rester coincés à la maison, à se débrouiller seules si elles le souhaitent, ou non, car elles ne peuvent pas se permettre de payer $5,000 par mois en garderie. Mais le problème, du moins pour celles qui s'y connaissent en prime à la naissance, c'est qu'elles ne fonctionnent pas vraiment. Certes, il a été démontré qu'elles augmentaient légèrement les naissances, mais elles ne résoudront pas un système qui néglige et opprime les femmes. Des études internationales montrent que des primes à la naissance contribuent parfois à freiner le déclin de la fécondité. Une étude récente a révélé que le taux de fécondité totale de la Corée du Sud aurait été inférieur de 4,7% en 2015 sans ces transferts monétaires après la naissance. Ainsi, sans les systèmes sociaux de soutien qui aident réellement les mères au-delà d'une réduction pour un accouchement à l'hôpital, cela ne changera rien à la crise du taux de natalité. Alors, pourquoi le système a-t-il si radicalement échoué envers les mères? C'est une grande question. Une question compliquée qui a une longue histoire derrière elle. Nous n'aborderons pas la plupart des points, mais je vais parler des aspects importants. L'un des plus gros problèmes est bien sûr le manque de soutien. Congé maternité pour les mères. Et pour être franc, comme je l'ai déjà dit, peu m'importe qu'il existe une assurance privée pour certaines mères ou que dans certains états, ils autorisent 6 semaines de congé. Chaque mère devrait avoir droit à un congé minimum d'une année complète pour s'occuper de son bébé et créer des liens avec lui. Point final, cela devrait être la norme. Et avec cela, à l'heure actuelle, bien que l'Amérique soit l'un des pays les plus riches aujourd'hui, seuls 21% des travailleurs américains ont accès à un congé familial rémunéré par l'intermédiaire de leur employeur. Même si, selon le Pew Research Center en 2015, les deux parents travaillent à temps plein dans près de la moitié des familles biparentales. Pour commencer, certaines des complexités de la façon dont les mères ont été laissées pour compte incluent une forte identité d'individualisme que l'Amérique défend. Cette valeur est issue de la Seconde Guerre mondiale et a également été une des principales raisons du succès de l'Amérique. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont redoublé d'efforts dans leur mentalité culturelle individualiste, en particulier lorsque leurs relations avec l'Union soviétique se sont détériorées après la guerre. Dans le sillage de cela, une forte antipie à tout ce qui pourrait être étiqueté comme socialiste ou pire, communiste, ont rendu beaucoup plus difficile le soutien aux politiques de protection sociale à bénéfice universel. Toute forme de soutien médical pour les mères ou les nourrissons qui s'accompagnait souvent d'un congé de maternité payé était considérée comme une médecine socialisée. Mais depuis lors, l'idée d'accorder un congé de maternité payé aux mères a suscité beaucoup d'intérêt. Comme nous le savons, 82% des Américains sont favorables à l'accès au congé de maternité payé. Mais malgré tous les avantages qui découlent du congé de maternité, comme une main-d'œuvre rémunérée accrue, une production économique plus importante et de meilleurs résultats sociaux, ils en sont toujours au point zéro. Et cela nous amène à la deuxième complication, à savoir que le gouvernement est tellement rabougri qu'il est souvent impossible d'apporter de grands changements. C'est un concept que j'ai lu dans le livre « Pourquoi rien ne fonctionne ?» Une lecture très intéressante sur la manière dont le gouvernement est empêché d'apporter de réels changements positifs pour ses citoyens. Et je suis sûre que j'y ferai également référence dans de futures vidéos. Mais aujourd'hui, je veux juste parler du concept général selon lequel ce qui est le mieux pour le peuple n'est pas toujours ce qui est imposé par le système. Des dysfonctionnements existent dans le système politique américain. Il y a trop d'obstacles à surmonter, trop de barrières à franchir et trop de possibilités d'annulation des propositions. Le problème ici est qu'il existe une tension entre le contrôle exercé par le gouvernement tout en lui donnant la capacité de faire avancer les choses. Car personne ne veut d'un gouvernement non réglementé, sans personne pour superviser ses actions, mais lorsqu'il y a trop de restrictions, l'establishment est coincé et a les mains liées, incapable d'aider les personnes qu'il sert. Les progressistes ont tellement peur des abus de l'establishment que les réformateurs ont tendance à préférer resserrer l'étau sur l'autorité publique plutôt que de desserrer les rênes. Le mouvement ne tient pas compte de tout ce que le bon gouvernement pourrait faire pour s'assurer qu'il ne fera pas de mal. Et cela a poussé des réformateurs bien intentionnés à insérer tellement de freins dans le système que le gouvernement en est devenu incompétent. Les fonctionnaires ne peuvent pas lutter efficacement contre le changement climatique, résoudre la crise du logement dans le pays ou améliorer les infrastructures du pays en raison des restrictions que les progressistes eux-mêmes ont mises en place pour protéger le public des abus. Nous vivons donc dans un système où même la plus petite résistance du public ou du public. Les politiciens qui ne sont pas d'accord peuvent empêcher tout changement positif. Je comprends malheureusement le gouvernement des États-Unis dans le sens où nous ne sommes pas motivés par l'idée de nous améliorer. Nous ne sommes pas motivés à faire des choses justes pour améliorer nos vies, pour nous rendre plus heureux. Ce n'est pas ce qui nous fait nous lever le matin. Nous sommes uniquement motivés par la rancœur et la possibilité de nous moquer de nos détracteurs. C'est pourquoi je pense que la seule façon de progresser est de lancer une course à la ville piétonne avec la Russie. Tant d'étapes, contrôles et points d'étranglement rendent le blocage des progrès plus facile que la création de nouveaux filets de sécurité. Et le congé maternité a été victime à maintes reprises de cette réalité. Mais c'est une question vraiment compliquée car nous avons vu ce qui se passe lorsque les gouvernements ne sont pas réglementés et les abus de pouvoir qui en découlent. Ce n'est donc pas non plus la solution. Et je ne vais pas prétendre connaître la réponse à cette question. Mais si le gouvernement ne peut pas surmonter ces obstacles, alors rien ne changera. Et l'autre aspect de la question, qui est si triste, c'est que même si les gouvernements ne peuvent pas surmonter ces obstacles, rien ne changera. Et l'autre aspect de la question, qui est si triste, c'est que même si les gouvernements ne peuvent pas surmonter ces obstacles, rien ne changera. Malheureusement, si les gouvernements ne surmontent pas ces obstacles, rien ne changera. 80% des Américains veulent un congé de maternité pour les mères, mais aucune d'entre elles ne veut réellement le payer. Les Américains sont en effet hésitants lorsqu'il s'agit de programmes financés par l'État. Alors que 82% des Américains soutiennent le congé parental rémunéré, seuls 47% approuvent son financement public, selon une même enquête. Tout le monde veut du progrès et de l'amélioration jusqu'à ce que le prix à payer pour ce progrès soit que quelqu'un s'immisce dans son propre jardin pour que cela se produise.
Pourquoi l'Amérique est-elle si opposée à l'idée du congé de maternité ? C'est comme si nous y étions allergiques. Nous avons ici la situation d'une mère très contrariée de devoir confier ses jumeaux à la garderie après 10 à 12 semaines de congé de maternité. Et puis vous avez des idiots comme ce type ci-dessous avec leurs étiquettes à chaud selon lesquelles les hommes devraient simplement gagner plus d'argent et subvenir aux besoins de leurs femmes alors qu'honnêtement, la solution simple est un congé de maternité imposé par le gouvernement. C'est une chose simple, mais je suis stupéfait que cela ne soit même pas au centre des discussions. C'est blâmer les hommes, vous savez, les femmes épousent de meilleurs hommes. Tout ça alors qu'il y a une solution si simple. La solution est trouvée par le reste du monde, mais nous, en Amérique, n'y parvenons pas.
Et nous le constatons dans les sondages d'opinion qui montrent que les Américains ne veulent pas que le gouvernement fédéral finance un programme de congés payés, préférant que ce soit les employeurs qui paient. Or, un congé payé obligatoire augmenterait les coûts pour les employeurs et réduirait l'emploi global. Et c'est quelque chose qui me rend plus triste qu'en colère, mais certainement un peu des deux, car à quoi servent les impôts si ce n'est à aider les habitants de votre pays? Et j'entends les arguments selon lesquels nos impôts ont été multipliés par 10 depuis les années 1900 et qu'il y a tellement de gaspillage dans les dépenses publiques. Mais cela ne veut pas dire que nous ne nous battons pas pour que les systèmes sociaux aident nos concitoyens lorsqu'il s'agit de nos mères, de nos sœurs et de nos filles. Fin de la diatribe. On se sent impuissant lorsque le gouvernement ne peut pas simplement mettre en place un congé maternité, au moins suffisamment long pour que les gens en réalisent les avantages et qu'il en vaut la peine à long terme. Mais c'est la raison pour laquelle nous voyons tant de cadeaux du gouvernement, comme les primes pour les bébés, parce que c'est plus facile à faire pression, plutôt que de créer des programmes qui soutiennent les gens à long terme. Nous avons même eu cela récemment au Canada lorsque Trudeau a voulu donner à chaque Canadien 250 $ pour les aider à payer le coût de la vie. Et la plupart des gens, vous l'avez demandé, étaient furieux parce que cela ne résolvait pas vraiment le problème. Mais malgré cela, nous continuerons de voir des aides comme celle-ci parce qu'elles apportent une aide rapide, ont une charge administrative faible et ne nécessitent pas de nouveaux ministères, infrastructures ou politiques. Et ce n'est qu'un engagement à court terme. Mais je terminerai par cette citation. Si nous voulons vraiment que le gouvernement soit capable de faire de grandes choses, la solution n'est pas de lui lier davantage les mains. Il faut demander des comptes à ceux qui sont au pouvoir et le faire sans paralyser l'action publique. Eh bien, bonjour, bienvenue dans mon coin montage pour les dernières réflexions d'aujourd'hui. Donc, je travaillais juste sur le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte que mes dernières réflexions n'étaient pas vraiment pertinentes. Je pense que je n'avais pas réalisé à quel point cette vidéo pouvait être négative, notamment envers la maternité. Et j'ai juste l'impression que je dois dire que la maternité est une question de maternité. Ce n'est pas si terrible pour beaucoup de femmes. Vous savez, il y a une raison pour laquelle tant de femmes ont des enfants, et j'ai juste l'impression que je dois défendre les mères. Nous sommes tellement nombreuses à aimer ça. Je ne peux pas imaginer ma vie sans enfants. Josh est pareil. Donc ce n'est pas si mal. Je me suis aussi demandé après coup, est-ce vraiment si grave si le taux de natalité baisse alors que l'IA prend tous nos emplois et qu'il n'est pas viable d'avoir une croissance continue des populations pour le bien de la Terre? Ce n'est pas non plus la solution. Alors, est-il inévitable que le taux de natalité baisse pour la longévité de l'humanité? Plus de questions à la fin de la vidéo. N'est-ce pas ce que vous aimez? Mais l'autre raison pour laquelle je voulais intervenir ici après coup, c'est parce que je sors avec des produits dérivés comme vous pouvez le voir sur mon corps. Et il y a quelque chose de spécial là-dedans. Alors, attendez jusqu'à la fin, je pourrai vous le dire. Mais d'abord, je veux passer en revue les éléments qui sont importants. J'ai fait. Mon préféré est ce chapeau. Il est écrit bien informé et effrayé parce que j'ai l'impression que c'est l'essence même de ma chaîne. Il est donc disponible en vert foncé et en noir, ce qui est quelque part. Laissez-moi le trouver. Le voici. Il est un peu sale parce que Josh le portait. Ouais, je trouve que c'est un chapeau tellement amusant. Et puis j'ai aussi mon t-shirt sur lequel est écrit Embers Research Society et qui est écrit en grand dans le dos. Et j'ai pensé que c'était une façon amusante de donner l'impression que nous faisons partie d'un petit club et de faire en sorte que cela paraisse un peu plus sérieux qu'il ne l'est en réalité. Et enfin, mon matcha est dans ma tasse Thunderpad. J'ai trouvé que cela correspondait à de nombreux sujets que nous abordons, comme la façon dont l'inflation et l'économie ont rendu tout le monde sous-payé, mais j'ai aussi une place particulière dans mon cœur pour les mères au foyer qui veulent utiliser cette tasse. J'ai pensé que ce serait drôle, ou pour les enseignants ou tout simplement, vous savez, tous ceux qui ont l'impression d'être sous-payés et qui ont le courage de l'afficher dans leur travail. Tellement amusant. Mais la raison pour laquelle je voulais mettre ce produit dans cette vidéo en particulier, c'est que tous les bénéfices iront à la Fondation SA, qui soutient directement les femmes. La Fondation SA est une organisation qui offre aux femmes et à leurs enfants un moyen de sortir du commerce du sexe. Mais la Fondation fait plus que simplement fournir un refuge contre l'exploitation sexuelle et la traite. Je ne sais pas quoi dire sur YouTube, mais c'est un programme de rétablissement à long terme pour que les femmes puissent réellement réintégrer la société avec des compétences et retrouver leur indépendance. Donc, si vous souhaitez aider à soutenir les femmes dans le besoin et également représenter le produit de votre YouTubeur préféré, je mettrai le lien dans la description. Merci beaucoup d'avance à tous ceux qui feront un achat. Et c'est tout ce que j'ai pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Salut porc, écoute bien. Nous voulons que tu commences à avoir beaucoup plus d'enfants. Oh, super, j'ai hâte de savoir comment tu vas y arriver. Ce que nous pensons, c'est $1, prime de naissance de $5,000 à la naissance de votre enfant. Ça coûte bien plus cher que ça d'accoucher dans ce pays. Nous voulons juste des soins de santé.